Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci Aude, merci pour chaque intervenant qui a apporté un petit témoignage. Alors effectivement, venons comme nous sommes, mais nous espérons que de semaine en semaine, notamment avec la parole de Dieu et son esprit, nous nous laissons aussi transformer toujours plus. Et c'est ce que je vous invite à prier avant la prédication. Notre Père, merci parce que tu nous accueilles. Tu nous accueilles comme nous venons à toi. Nous n'avons pas besoin de porter de masque, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu nous vois tels que nous sommes. Merci parce que, en nous accueillant, tu nous accueilles aussi avec ton amour, ta bienveillance. Tu nous offres ton esprit. Tu te révèles à nous par ta parole. Et nous voulons encore nous laisser façonner par toi ce matin. Que ta parole agisse. Que ton esprit nous aide à la comprendre. Et que cela puisse nous faire progresser dans notre compréhension de qui tu es, mais aussi ce que tu souhaites pour nous, pour notre Église, pour la manière dont ton Église rayonne aussi là où elle est. Nous te prions pour que tu bénisses encore ce culte. Au nom de Jésus, amen. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet souvent tabou. Alors, est-ce que la télécommande fonctionne ? Est-ce que le diaporama est sélectionné ? Hop, c'est bon, ça marche. Voilà, sujet tabou qui concerne les dîmes, les offrandes et les dons. Autrement dit, il s'agira d'argent, comme vous le voyez sur l'image. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet aujourd'hui ? Tout d'abord, c'est un thème dont la Bible parle abondamment, sans tabou. En tant que prédicateur, c'est aussi donc ma mission d'aborder les questions que la Bible aborde, et donc questions d'argent. Ensuite, c'est un thème très spirituel dont on parle peu en Église. Cela va bientôt faire 5 ans que je suis à Gobert, et il me semble que c'est la première fois que j'aborde ce sujet en prédication. Alors, y a-t-il une raison pour laquelle j'ai choisi le jour de l'Assemblée Générale pour parler d'argent ? Il est vrai que ce n'est pas sans lien avec l'AG. J'aimerais donner toutefois quelques précisions importantes. Nous allons voir cet après-midi, lors de la présentation du rapport financier par notre trésorier, nos finances se portent relativement bien. Le but de cette prédication n'est donc pas de dire que l'on n'a pas assez d'argent et de faire la leçon en disant qu'il faut donner plus. Actuellement, avec les dons réguliers de chacun, nous sommes à l'équilibre et la communauté fait déjà preuve de générosité. C'est donc sans aucune arrière-pensée que j'aborde ce thème. Enfin, je précise également que mon salaire n'augmente pas en fonction des dons que l'Église reçoit. Dans notre union d'Église, tous les pasteurs sont rémunérés selon le même barème. Que l'Église soit pauvre ou riche, entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'une Église riche, qu'est-ce qu'une Église pauvre ? Ce n'est pas seulement lié à l'argent, mais voilà. Que l'Église soit financièrement riche ou pauvre, cela n'influencera pas le salaire du pasteur. Je n'ai donc aucun intérêt personnel à prêcher sur ce thème. Je profite justement de la bonne santé financière de notre Église et du constat de la générosité de chacun pour parler d'argent de manière sereine et sans objectif financier. Le seul objectif de cette prédication, comme toutes les autres, c'est de regarder les textes bibliques pour entendre ensemble une parole de Dieu pertinente pour chacun de nous, dans le contexte où nous vivons aujourd'hui. Je vous invite maintenant donc à entrer dans le vif du sujet, à commencer par les textes de l'Ancien Testament. Nous allons prendre un premier texte dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, versets 22 à 29. Ces versets parlent de la dîme pour se réjouir. Voyons de quoi il s'agit. Donc c'est mon premier point, une dîme pour se réjouir. Et le texte, tu prélèveras, donc c'est Dieu qui parle à Moïse pour qu'il s'adresse au peuple ainsi, tu prélèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Ainsi, tu apprendras à toujours craindre l'Éternel, ton Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que tu habiteras loin de l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, bœufs, brebis, vin et liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui habitera dans ta ville, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette 3e année, et tu la déposeras dans ta ville. Alors le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville viendront et mangeront à satiété. Ainsi, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà donc un premier texte. Nous sommes toujours au premièrement, une dîme pour se réjouir. Dans certains milieux chrétiens, la dîme désigne l'argent que le fidèle donne à l'Église. D'autres préfèrent parler d'offrande ou de don. En tout cas, la dîme vient du mot latin « decima » qui signifie « un dixième ». Dans la Bible, la dîme signifie 10%, donc, c'est-à-dire 10% des récoltes et autres revenus en nature. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu ordonne à son peuple de prélever la dîme, c'est-à-dire 10% de leur récolte de blé, 10% de leur production de vin, 10% de leur bétail, enfin les premiers-nés en tout cas, etc. Et que doivent-ils faire avec cette partie de leur revenu en nature ? Ils doivent aller à l'endroit que Dieu leur ordonne, que Dieu leur ordonnera, puisque ce n'est pas encore fait, et consommer ces aliments afin de faire la fête. Et si une famille habite trop loin du sanctuaire, elle devra vendre les 10% de sa récolte pour avoir de l'argent. Et une fois au sanctuaire, voici ce que Dieu leur demande de faire, verset 26. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras. Bœufs, brebis, vin et liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. C'est génial comme commandement. Si je résume, une fois par an, 10% des revenus d'une famille devaient servir à faire la fête et à se réjouir. Mais ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est une fête pour se réjouir devant Dieu. C'est une fête en l'honneur de Dieu, pour manifester sa reconnaissance, car c'est Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Cette fête était aussi une manière pour le peuple de se rassembler, de vivre une communion. Dans la Bible, les repas sont un symbole de fraternité. On ne mange pas avec ses ennemis, mais avec ses compatriotes, avec les compagnons. Vous vous demandez peut-être, devons-nous faire cela aujourd'hui ? À quoi cela correspond-il dans notre contexte, à nous ? Devons-nous dépenser 10% de nos revenus pour un repas de fête ? avec des liqueurs fortes en l'honneur de l'Éternel. Je vous propose de passer aux applications un peu plus tard, car il faut prendre en compte d'autres éléments du contexte. Dans ce texte du Deutéronome, chapitre 14, il est question de la tribu des Lévites, à deux reprises, verset 27 et verset 29. Il est dit que le Lévite n'a ni part ni héritage avec les Israélites, enfin le reste des Israélites. Que signifie cette parole ? À ce moment de l'histoire d'Israël, le peuple hébreu se trouve dans le désert de Sinaï et s'apprête à entrer en Canaan avec Josué, le successeur de Moïse. Dieu leur donne des lois pour qu'ils sachent comment se comporter une fois entrés dans le pays promis. Dans cette terre promise, toutes les tribus auront des terres, sauf la tribu de Lévi, qui ne possédera pas de territoire, car elle devra se consacrer entièrement au service du culte rendu à Dieu. Pour que les Lévites puissent avoir de quoi vivre, chaque tribu devra leur donner la dîme, soit 10% des récoltes. Il y a donc une deuxième dîme pour les Lévites. C'est mon deuxième point. Cette loi est donnée dans le livre des Nombres, chapitre 18, versets 21 et verset 24, entre autres. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Et verset 24, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Si je résume, Dieu demande donc aux Israélites deux dîmes, soit 20% de leurs revenus. Les deux dîmes sont données pour honorer Dieu. La première pour faire la fête, en reconnaissance de ce que Dieu donne, et la deuxième pour les Lévites, qui sont chargés du service dans le temple. Cela comprend l'entretien du tabernacle, ainsi que sa sécurité, l'accomplissement des rituels tels que les sacrifices, l'enseignement de la loi au peuple, la louange et tout autre service lié au culte. On peut remarquer au verset 24 que cette deuxième dîme, Dieu considère qu'elle lui est due à lui et non aux Lévites. Les 11 tribus donnent à Dieu et ensuite Dieu donne aux Lévites. Verset 24, hein, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. C'est important de le signaler car cette loi rappelle que tout vient de Dieu. Que ce soit les 11 tribus qui reçoivent les récoltes, ça vient de Dieu, que ce soit les Lévites qui reçoivent de quoi vivre de la part de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Dieu a envoyé la manne pour nourrir le peuple dans le désert. De même, Dieu permettra que les Israélites puissent travailler la terre et nourrir le bétail. Ce sont des dons de l'Éternel. La dîme pour le culte revient à Dieu, car c'est lui qui pourvoit. Ensuite, Dieu donne aux Lévites, de sorte que les revenus des Lévites ne sont pas un salaire. Ils ne sont pas employés par le peuple. Ils sont chargés d'une mission par Dieu, et c'est Dieu qui leur donne de quoi subvenir à leurs besoins. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des revenus consacrés à la fête et des revenus consacrés à Dieu qui reverse aux Israélites. Mais Dieu n'oublie pas les plus démunis. C'est mon troisième point. Les démunis ne sont pas oubliés. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 14, nous avons lu que tous les 3 ans, la dîme qui devait être destinée à la fête sera partagée avec les Lévites et les plus démunis, les plus pauvres. Relisons les versets 28 et 29. Tous les 3 ans, Tu sortiras toute la dîme des produits que tu auras obtenus durant cette troisième année et tu la déposeras dans la ville, dans ta ville. Alors le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui habiteront dans ta ville viendront et ils mangeront à satiété. Ainsi, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors cette démarche envers les plus démunis n'est pas la seule. Dans la loi que Dieu donne à Moïse, Dieu mentionne à plusieurs reprises, même à nombreuses fois, il mentionne l'étranger, la veuve et l'orphelin. Nous allons le voir, il y a tout un système d'entraide pour que même les plus pauvres aient assez pour vivre, aient assez à manger et puissent vivre dignement. Avant d'aller plus loin et de passer à l'enseignement du Nouveau Testament, arrêtons-nous un instant pour réfléchir à nos pratiques aujourd'hui. Et c'est mon quatrième point, parce qu'il faut bien comprendre ce que dit l'Ancien Testament. Je trouve que dans nos pratiques, et même dans notre langage, dans les églises protestantes évangéliques, on se rapproche de l'enseignement de l'Ancien Testament, plus de l'Ancien que du Nouveau. Et le problème, c'est que parfois, nous comprenons mal l'Ancien Testament, parce que nous ne remettons pas souvent, enfin pas toujours, les textes dans leur contexte. Par exemple, dans nos églises, il nous arrive de parler de la dîme pour désigner l'offrande qui est donnée régulièrement à l'Église. Ce langage sous-entend-il déjà qu'il s'agit de 10% des revenus? Ce qui revient à énoncer une règle. Mais cette règle est-elle bien comprise? Nous avons vu que Dieu demande deux dîmes au peuple. Alors de quelle dîme s'agit-il lorsque nous donnons à l'Église? Comme le contexte n'est plus le même, nous avons du mal à avoir des équivalents. De plus, Dieu demande les dîmes dans le livre du Deutéronome. Lorsque Dieu demande les dîmes dans le livre du Deutéronome, il faut prendre en compte tout le contexte. Dans ce livre du Deutéronome, Dieu est en train de donner une série de lois qui permettront à la société israélite d'être équitable. Équitable. La dîme fait partie d'un système bien plus large. Par exemple, juste après avoir parlé des dîmes, au chapitre 14, Dieu parle des remises de dettes et de la libération des serviteurs. En effet, Dieu ordonne que toutes les dettes soient effacées tous les 7 ans. Donc, de plus, si une personne s'était rendue esclave, donc serviteur à l'époque, si on pouvait se rendre serviteur d'un maître si on était trop pauvre et on voulait se mettre au service de quelqu'un, eh bien si une personne s'était rendue esclave, elle doit être libérée dans cette 7e année. Et le maître doit même lui donner des cadeaux de départ, prime de départ. Dieu a pensé à un système où tout se rééquilibre. Un autre exemple de ce système. Toutes les terres vendues doivent retourner à leur propriétaire d'origine tous les 50 ans. Ainsi, si une famille en difficulté a dû vendre des terres pour pallier à des soucis d'argent, elle récupère sa propriété cette année-là. Dieu a pensé à un système où tout se rééquilibre, afin que le pauvre ne devienne pas plus pauvre et que le riche ne s'accapare pas toutes les richesses. C'est dans ce système-là qu'il instaure les deux dîmes. Aujourd'hui, si nous appliquons la règle des dîmes sans appliquer tout le reste du système, ça ne marche pas. On risque même de faire l'effet inverse de ce que Dieu souhaitait. On risque de faire peser sur le pauvre une règle trop lourde qui va le désavantager, et on sous-entend aux plus riches qu'une fois qu'ils ont donné 10%, ils ont accompli leur devoir et ils peuvent jouir des 90 autres % sans se soucier du reste du monde. Alors j'exagère un peu, mais c'est comme ça que cela peut être compris. Et on oublie souvent que Dieu ne demandait pas 10%, mais 20%, car il y avait deux dîmes. Alors si ce système des dîmes n'est plus valable aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus dans le même système, nous avons changé de contexte. Quelles règles faut-il appliquer? Que dit le Nouveau Testament? C'est mon cinquième point. Le mot d'ordre du Nouveau Testament, c'est la générosité. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de règles, mais un état d'esprit. C'est ce que Jésus n'a cessé d'enseigner. Aller au-delà des règles pour adopter un état d'esprit. À chaque fois que les apôtres ont parlé d'argent, ils n'ont jamais parlé de pourcentage, mais de générosité. Dans son sermon sur la montagne, Jésus donne le sens profond de la loi. Il donne l'état d'esprit de la loi. Il dit par exemple, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors Jésus, dans son sermon sur la montagne, n'a pas vraiment parlé d'argent, quoique. Mais imaginons ce que Jésus aurait pu dire à propos des dîmes. Vous avez appris qu'il a été dit, tu donneras deux dîmes à Dieu. Mais moi, je vous dis, trois petits points. S'il nous semble difficile d'imaginer ce que Jésus aurait pu dire, les apôtres nous ont laissé des indices. Voici ce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1. Versets 1 et 2. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie, deux points, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Alors ici, dans ce chapitre 16, la collecte dont il est question, c'est une collecte de solidarité, car Jérusalem fait face à une famine et l'Église aide toujours plus de pauvres. Donc il ne s'agit pas d'argent donné pour les frais du culte en lui-même, mais nous apprenons quelques principes applicables en toutes circonstances. Tout d'abord, le don est réfléchi, que chacun mette de côté chez lui ce qu'il pourra. Ce n'est pas au moment où le panier passe qu'on réfléchit combien on va donner. Ensuite, c'est un don en fonction des moyens. En fonction des moyens, c'est précisé. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous lisons un autre principe. C'est le deuxième verset qui apparaît à l'écran. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'une des règles, c'est de donner avec joie. Alors, ce n'est pas une règle à proprement parler, mais c'est pour dire l'état d'esprit dans lequel on est appelé à donner et l'état d'esprit que l'on doit rechercher, la générosité et la joie à donner. Alors, pour conclure, comment résumer l'enseignement de la Bible sur les dîmes, les dons et les offrandes? Le don que Dieu aime, c'est un don libre, sans contrainte, qui est offert généreusement en fonction de nos moyens et que nous donnons avec joie. Notre Église bénéficie de dons généreux. Poursuivons donc cette dynamique avec joie, sans oublier les œuvres d'entraide et les œuvres de témoignage. Lorsque j'étais étudiant, je me demandais s'il fallait que je donne régulièrement de l'argent à mon église, puisque je n'avais pas encore de salaire, et en plus, mon église locale avait déjà beaucoup de moyens. À l'époque, le budget, c'était quelque chose comme 160 000 euros sur l'année. J'ai alors entendu une prédication dans une autre église qui m'a beaucoup aidé. Si l'on apprend à donner lorsque l'on a peu, alors on aura plus de facilité à être généreux le jour où l'on aura plus. C'est simple comme constat. Quand on a peu, ben, on apprend à donner déjà. Puis quand on aura plus, on aura appris à être généreux. Quant à la richesse, entre guillemets, de l'Église locale, nous l'avons vu, ce n'est pas à cela qu'il faut regarder. Notre regard doit être porté plutôt vers Dieu. En effet, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas notre Église, c'est l'Église de Dieu. Par ailleurs, l'Église où j'étais membre à l'époque était certes relativement riche financièrement, mais elle était, et elle est encore, très généreuse. Donc l'argent qui est donné à l'Église n'est pas que pour nous, pas que pour l'Église, mais l'Église gère cet argent et la gère de manière généreuse envers d'autres missions. Enfin, n'oublions pas que tout ce que nous recevons vient de Dieu. En parlant d'argent, l'apôtre Paul ne manque pas l'occasion de rappeler le lien avec l'Évangile. C'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. L'apôtre Paul parle de cela alors qu'il parle d'argent avec les Corinthiens. « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » J'aime beaucoup ce verset. Le Seigneur qui était riche, qui s'est fait pauvre pour moi, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Dieu n'a-t-il pas été généreux envers nous, en nous donnant son Fils, en nous offrant gratuitement le pardon des péchés, en nous offrant gratuitement tous les biens que nous possédons? Tout comme le Seigneur est généreux envers nous, soyons reconnaissants, soyons généreux et heureux de l'être. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci pour ta générosité. Merci parce que ta richesse, ta gloire, ta puissance, tu as tout laissé de côté pour venir à notre rencontre. Merci parce que tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions et même les bénédictions matérielles. Merci pour ton Église qui se tient là, aujourd'hui, depuis plusieurs siècles d'histoire. Merci parce que tu es fidèle et tu prends soin de nous. Aide-nous à être de bons gestionnaires des biens que tu nous confies, que ce soit les biens personnels ou les biens collectifs qui sont rassemblés par ton Église. Merci Seigneur pour ces textes qui nous invitent à donner avec joie, parce que tu ne veux pas faire peser sur nous une contrainte, mais une liberté. La liberté d'être transformé à ton image pour devenir généreux comme toi tu l'es. Aide-nous à nous laisser transformer, devenir généreux, être heureux de l'être et à vivre avec cet état d'esprit de générosité parce que tu as été le premier généreux envers nous. Que ton Église soit bénie et que ton nom soit glorifié en tout temps, en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen.